Salut à tous, ici Zeny pour un épisode hors série du Poké Freak Show. Je ne peux pas encore vous dire s'il y en aura d'autres, mais en tout cas, cette semaine, nous allons parler de certaines choses que Pokémon nous a révélées ces dernières semaines. Alors déjà, en termes d'actualité, les jeux Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli sont sortis la semaine dernière, mais nous ne parlerons pas de ces jeux ici. D'autant qu'à l'heure où j'écris cet épisode, le jeu n'est pas du tout sorti, donc je sais pas encore s'il est bien ou pas. Nous ne parlerons pas non plus ici du trailer de Détective Pikachu, le premier film Pokémon en live action. J'étale déjà suffisamment mon excitation face à ce projet sur Twitter, donc je vais vous épargner ça ici. Aujourd'hui, nous allons plutôt parler d'un autre événement récent du jeu. Vous n'avez pas pu passer à côté, le 22 septembre dernier, ça fait déjà un bail effectivement, les joueurs de Pokémon Go ont fait connaissance avec une nouvelle créature dans le jeu. Une créature étrange, flasque, comme un métamorphe, mais avec un écrou à la place de la tête. Ce Pokémon se nomme Meltan, et depuis, Game Freak n'a eu de cesse de nous révéler des choses sur cette petite créature qui s'annonce bien être le premier représentant de la 8ème génération. Qui est-il? D'où vient-il? Quelles sont ses origines? Et pourquoi Game Freak donne autant d'importance à ce machin-là? Tout ce qu'on peut dire avec certitude en tout cas, c'est que ce pauvre petit Pokémon n'a pas du tout fait l'unanimité à sa sortie, et beaucoup l'ont juste trouvé ridicule. Et c'est pour ça que je lui viens aujourd'hui en aide. Donc c'est parti pour le premier hors-série du Poké Freak Show sur Meltan. Avant toute chose, soyez prévenus que cet épisode est incomplet. En effet, je me baserai que sur ce qu'on sait de lui pour le moment, mais Game Freak va sans doute nous révéler de nouvelles choses prochainement, et c'est pour ça aussi que je fais cet épisode aussi tard. Donc vous pouvez voir ce podcast-là comme un brouillon d'un futur épisode qui pourrait sortir lorsque nous saurons plus de choses sur lui, ou tout simplement un épisode de théorie. Mais vu l'urgence, je vous poste quand même cet épisode maintenant. Notez tout de même qu'il est fortement possible que toutes les théories que je vais énoncer dans cet épisode soient démolies dans les prochaines semaines, si ce n'est pas déjà le cas au moment où vous écouterez ce podcast. Donc, prenez bien tout ce que je vais vous dire avec de très grosses pincettes. Le 22 septembre 2018, des petits génies en informatique ont découvert ce nouveau Pokémon dans le code source d'une mise à jour de Pokémon Go. Tout ce qui était su, c'était sa forme et un lien possible avec Kecleon, chose qui n'a jamais été confirmée depuis d'ailleurs. Pour vous le décrire, il s'agit d'une espèce de pâte à modeler en métal, avec une tête en forme d'écrou en or et une boule noire qui lui sert de pupille à l'intérieur de cet écrou. Derrière lui, une tige rouge qui ressemble assez à un câble électrique lui sert de queue. Bref, un design tout de même assez particulier qui, entre nous, ne laisse pas trop de place au hasard. Donc, erreur de la part de Game Freak, ou tout avait été calculé? En tout cas, peu de temps après, ce nouveau Pokémon a fait une apparition très remarquée sur Pokémon Go, il a commencé à popper partout dans le jeu, quelle que soit la région. Mais quoi qu'il arrivait, quand on le capturait, ce Pokémon se transformait direct en métamorphe, et cela a permis à certains joueurs d'enfin trouver des métamorphes. Mais d'autres ont surtout commencé à avoir une attention toute particulière pour cet étrange Pokémon, qui ne possédait pour le moment aucun nom. Tout ce qu'on avait de lui, c'était seulement sa forme, rien de plus. Certains se demandaient même si ce n'était pas là juste un bug. En tout cas, si c'était un truc bien calculé, je trouve ça génial. Imaginez un Pokémon qui nous a été montré dans un jeu bien avant la révélation officielle, c'est génial pour donner une certaine impression d'immersion aux joueurs qui auront sincèrement la sensation de faire face à une découverte inédite. Et à l'inverse, si c'était une erreur, bien joué Game Freak quand même, car il faut avouer qu'ils se sont très très bien rattrapés. Car peu après, la licence a diffusé 4 vidéos sur sa chaîne YouTube. Des vidéos qui se veulent des teasers des deux nouveaux jeux, mais qui ont beaucoup servi à découvrir de nouvelles choses sur ce nouveau Pokémon. Et la première chose qui a été révélée dans ces vidéos a été son nom, Meltan. Melt, qui veut dire fondre en anglais, et Tan qui a deux sens possibles. Soit il s'agit d'un simple suffixe japonais pour souligner qu'il s'agit d'un petit Pokémon, soit c'est le Tan de Tantal, qui n'est autre qu'un métal, mais nous y reviendrons plus tard. Donc à travers un premier dialogue entre le professeur Willow qui représente Pokémon Go, et le professeur Shen qui représente Let's Go, on apprend alors que les métamorphes se changeraient en un Pokémon très ancien et a priori disparu aujourd'hui. Un Pokémon exclusivement acier, mais surtout un Pokémon fabuleux, c'est-à-dire légendaire. Depuis cette première vidéo, beaucoup de spéculations ont tourné, d'autant que le site officiel de Let's Go nous proposait une description en plus, comme quoi il absorberait du métal et générerait de l'électricité avec ce métal absorbé, afin de pouvoir faire léviter son œil. Ça veut donc dire qu'il convertit le métal en champ électrique? Bon, clairement, je n'ai pas trop les compétences en physique pour vous expliquer en quoi ça consiste concrètement. Cela dit, cela pourrait confirmer que l'étymologie de Meltan utilise tantal, puisque c'est un métal utilisé pour la création des condensateurs, des composants électroniques, utilisés pour stocker de l'électricité. Après, pourquoi on insiste autant sur ce métal-là, ça reste un mystère. Certains pensent d'ailleurs que son écrou en or serait en fait du tantal, mais ça on y reviendra aussi plus tard. Mais lors de sa sortie, je me suis surtout demandé pourquoi un Pokémon si ancien refaisait son apparition maintenant. Et surtout, pourquoi il réapparaît à travers des métamorphes? Pourquoi maintenant? Bon, évidemment, on ne peut que penser que c'est parce que la 8ème génération pourrait introduire un gros événement qui va pousser au réveil de cette créature. Mais déjà, quel événement? Et surtout, pourquoi c'est les métamorphes qui se transforment en lui? Et là, les gens ont commencé à y voir un parallèle avec l'apparition de Mewtwo dans les jeux de Pokémon Go, mais aussi avec l'approche des jeux Let's Go, où Mewtwo pourrait réapparaître. Du coup, beaucoup ont fait un rapprochement avec la théorie qui dit que les métamorphes seraient des tentatives ratées pour cloner Mew lors de la création de son célèbre clone. En effet, les deux Pokémon ont les mêmes couleurs en normal comme en chromatique, et sont les seuls Pokémon qui connaissent Morphing. Bon, on aime ou on n'aime pas cette théorie, mais en tout cas, elle existe, et Meltan pourrait être sa continuité. Surtout que, si vous avez écouté mon podcast sur Girafari, vous m'avez entendu parler d'un projet d'évolution de Metamorph qui devait être de type acier. Donc, est-ce que Meltan est le retour d'un très vieux projet de Game Freak? En tout cas, tout ceci était à l'époque la théorie la plus crédible de Meltan. Mais elle était contredite par un autre point. Il est dit que Meltan est un ancien Pokémon, et Mewtwo est relativement récent. Donc à moins que Pokémon nous ait complètement fucked up et que les événements de Pokémon bleu et rouge se soient passés il y a des millénaires, ça ne tient pas du tout la route. Le 10 octobre 2018, donc 15 jours plus tard, une seconde vidéo a été publiée. Celle-ci expliquait grosso modo le procédé pour obtenir Meltan dans Pokémon Go. En gros, ça nous parlait d'une boîte mystérieuse noire contenant un morceau de fer rouillé. Et si on met cette boîte dans la nature, ça donne un Meltan. Au même moment, une autre vidéo hors série a également été révélée. Dans celle-ci, bien plus mignonne que celle des deux professeurs, on voyait un groupe de Meltan jouer entre eux avec un fond d'études de terrain. C'était bien mignon, comme tout, les Meltan s'amusaient entre eux, absorbant des objets et dormaient. Mais la vidéo se finissait alors sur un cliffhanger assez inattendu. Elle se finissait sur des Meltan qui semblaient fusionner entre eux pour donner ensuite une sorte d'ombre gigantesque. Donc on suppose que ça nous a introduit l'évolution de Meltan, mais comment ils évoluent? Est-ce que ce sera le même mécanisme que Froussardine qui possède une forme issue de la fusion de plusieurs espèces, ou que Zygarde qui est issu de la récupération de plusieurs cellules, mais reste le même Pokémon quel que soit le pourcentage de cellules recueillies? Et finalement, c'est ni l'un ni l'autre, il s'agissait bien d'une évolution classique. Mais du coup, il évolue en quoi finalement? Eh bien, il évolue en une espèce de colosse de métal appelé Melmetal. Melmetal est donc aussi un Pokémon de type acier qui dépasse les 2 mètres pour presque une tonne, et basiquement, il s'agit d'une version bodybuildée de Meltan, mais avec tout de même quelques subtilités. Bien qu'il ait gardé son écrou en or et sa queue câblée, il possède de gros écrous noirs le long de ses bras, un écrou doré en haut du corps et un écrou gris en guise de nombril. Autant dire qu'il aime bien les écrous. Son étymologie est moins équivoque puisque c'est basiquement Melt plus Metal. Et sa description dans la dernière vidéo de promotion du Pokémon sortie le 24 octobre dernier nous parle d'un Pokémon vénéré il y a 3000 ans qui pouvait créer du métal. Et autant Meltan n'était pas trop aimé à cause de sa forme ridicule, autant Melmetal fait plus l'unanimité. Bien qu'un point fait tout de même tiquer les joueurs, le seul moyen connu de le faire évoluer est de rassembler 400 bonbons sur Pokémon Go, ce qui veut dire que pour le moment on ne peut le faire évoluer uniquement dans ce jeu-là, et pas dans Let's Go. Et bien que c'était effectivement la manière la plus crédible de justifier le fait que son évolution vient de la fusion de plusieurs représentants de cette espèce, car dans Pokémon Go quand on capture un Pokémon ou quand on le relâche, on récupère des bonbons de cette espèce-ci, je comprends que ça embête les personnes qui auraient préféré pouvoir l'obtenir normalement dans les jeux Let's Go. Donc récapitulons toutes les informations qu'on a. Donc Meltan évolue en Melmetal. Les deux sont de type acier uniquement, ils seraient des Pokémon légendaires venant tout droit de l'équivalent de l'Antiquité dans Pokémon, et si l'un absorbe le métal, l'autre en produirait. Physiquement, il possède une tête d'écrou en or et Melmetal possède d'autres écrous un peu partout sur lui, de différentes structures, et ont tous les deux une espèce de câble électrique comme queue et un corps constitué d'une sorte de métal fondu. D'ailleurs, parlons-en de ce corps. Beaucoup penseraient qu'il s'agirait en fait de Mercure. Le fait que ça y ressemble vaguement, alors qu'on pourrait aussi penser à de l'étain à température élevée, n'est pas l'unique preuve. En effet, le mercure possède la faculté de pouvoir absorber des métaux pour pouvoir en faire ce qu'on appelle un amalgame. Donc on peut dire que le corps de Meltan est du mercure. Qu'est-ce que ça change? Beaucoup de choses. Déjà, il faut savoir que le tantal est l'un des seuls métaux qui ne font pas dans le mercure par amalgame. Du coup, ça confirme du coup que son écrou est fait de ce métal peut-être? Mais surtout, le fait que son corps serait du mercure nous amène à quelque chose que beaucoup doivent connaître ici. Il s'agit d'une discipline très répandue au Moyen-Âge dont le principe était la manipulation et la transmutation de métaux et dont le but était d'atteindre ce qu'ils appelaient la grande œuvre, à savoir la transmutation du plomb en or. Mais cela a tout de même permis à la chimie d'avoir pu se développer pendant plusieurs décennies à l'ombre, bien au chaud. Donc vous l'aurez compris, nous allons lier Meltan et Melmetal au concept d'alchimie. Pendant plusieurs siècles, les alchimistes reconnaissaient un nombre très restreint de métaux. 7 pour être précis. Les 7 métaux reconnus jusqu'à la Renaissance. Il s'agissait du fer, du plomb, du cuivre, de l'étain, du mercure, ainsi que les deux considérés comme parfaits, l'or et l'argent. Bien entendu, vous vous doutez que, pour les alchimistes, il ne s'agissait pas seulement d'une liste de courses. En effet, une branche de l'alchimie estimait que les métaux pouvaient naturellement se transmuter, par étapes, d'un métal à l'autre. On commençait par le fer, puis le cuivre, puis le plomb, l'étain, le mercure, l'argent, et enfin l'or. Et une fois cette dernière étape atteinte, le métal se dégrade pour redevenir du fer. S'ensuit alors un cycle continu entre la médiocrité et la perfection. Bon, bien sûr, c'est pas des mutations instantanées, mais elles se font progressivement au fil des siècles. Cette vision n'est pas au goût de tous les acteurs des recherches alchimiques, mais était la base de toute une branche. Et pour cause, l'un des symboles les plus répandus dans le domaine est l'ouroboros, le serpent qui se mange la queue et qui symbolise la continuité perpétuelle. Mais aussi est associé à l'un des plus importants dictons de cette science, la matière est une, mais elle peut prendre diverses formes. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que ma théorie est que Meltan symbolise bien le principe des 7 métaux, et je prends pour preuve le corps de Melmetal. Listons les caractéristiques de notre ami. Il a une tête au moins plaquée or, 1, un corps en mercure, 2, il a des bras avec des écrous noirs qu'on pourrait supposer être du plomb, 3, sa queue est un fil électrique et un fil électrique contient majoritairement du cuivre, 4. Son nombril, cela pourrait être de l'argent, 5. Enfin, pour lier tout ça, on peut utiliser un composant qu'on utilise en soudure pour lier les câbles électriques, à savoir de l'étain, 6. Donc voilà, Melmetal pourrait posséder 6 des 7 métaux de la légende. Oui, mais le 7ème métal, à savoir le fer, eh bien ça c'est son chargeur. On nous dit que Meltan absorbait différents métaux, tandis que Melmetal les recrachait. Donc, plus Meltan mange du fer, plus il grandit et recrache tout quand il est plus grand, mais sous la forme de métaux différents, car rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, l'échange équivalent, tout ça, tout ça. Après, ça pose quand même deux questions. 1. Pourquoi c'est aussi rapide dans ce cas-là? Si les théories des alchimistes se révélaient vraies, cette transformation se ferait sur des années. Et ma seconde question est donc, Meltan, c'est un amas de métaux. Mais où est du coup le principal, à savoir son âme? Et du coup, ma théorie à ces deux questions, c'est sa boule noire. Oui, celle qui lui sert d'œil. On ne sait rien sur cette boule, mais est-ce qu'elle a un rôle inavoué? Genre, elle sert de moteur à la transformation de Meltan en Melmetal, mais lui servirait aussi de conscience? Et en fait, est-ce que cette boule noire qui lui sert de pupille ne serait pas tout simplement la pierre philosophale? Bon, là, c'est le moment où je vais clairement très loin. Pour le moment, on ne sait rien sur elle, et si ça se trouve, je dis n'importe quoi, et on n'en en parlera jamais. Mais j'aime bien l'idée qu'en fait, Meltan soit en réalité la pupille de son corps, et se nourrit de fer non pas pour intensifier son champ de force, mais pour recharger peut-être le tantal autour de son œil, afin de garder toute la symbiose de son corps et aider à son développement. Ça créerait une certaine harmonie parfaite. Et puis souvenez-vous ce que disait le professeur Chen. Au départ, dans la boîte mystérieuse, il y avait un morceau de fer rouillé. Et si justement c'était une boule qui s'était abîmée, et qui avait besoin d'une espèce d'énergie de la nature pour pouvoir revivre? De plus, il y a un élément de Meltan qui pourrait prouver l'importance de cette boule noire. Je sais pas si vous l'avez remarqué, ce qui est un peu difficile car c'est un peu la moitié de son corps, mais son œil est entouré par un écrou en or. Alors soyons clairs, jamais un écrou en or ou un écrou plaqué tantal, et même le tantal en lui-même, n'a été utilisé comme pierre philosophale ou je ne sais quoi d'autre. Les écrous en or étaient plutôt là pour fixer les armures au Moyen-Âge, donc rien à voir. Cependant, si on étudie le symbolisme en alchimie, la forme de cet écrou est intéressante. Chacun des 7 métaux que j'ai cités sont associés à des astres célestes. Le fer c'est Mars, le cuivre c'est Vénus, le mercure c'est Mercure, l'argent c'est la Lune, et bien évidemment, l'or, c'est le soleil. Et le soleil, dans la cosmologie hermétique, c'est la source énergique du monde, producteur de la force universelle, maintient les êtres de l'existence, en bref, l'expression visible du divin. Il domine toute chose, et vu cette définition, il est logique que la source même de Meltan est enfermée par cet écrou en or qui maintient son essence. Donc ça confirme la théorie du tantal, mais du coup, pourquoi c'est représenté par un écrou hexagonal? Eh bien, justement, hexagonal. Et je pense que c'est ça qui est important. Car en plus de l'ouroboros, il y a un autre symbole important en alchimie, et c'est le sceau de Salomon, qu'on connaît mieux à notre époque sous le nom de Croix de David. Avec ces deux triangles qui se croisent pour former une étoile, il symbolise en réalité l'union de deux mondes. Alors toute personne croyante pencherait pour le monde divin et le monde terrestre, ce qui serait pas faux. Mais les alchimistes avaient une vision beaucoup plus métaphorique de la chose. Pour eux, il y a le macrocosme, qui est en gros l'univers, ce qu'on peut appeler l'esprit ou le tout, et le microcosme, soit le monde à l'échelle humaine, et même individuelle, la matière, ou l'un, pas le département. Et du coup, cette croix symbolise l'union entre le tout et le un, entre l'esprit et la matière, entre le macrocosme et le microcosme. Et je vous invite à tracer une croix de David, puis à lier toutes les extrémités extérieures. Vous obtiendrez du coup un hexagone, et la preuve que Meltan est le Pokémon de l'Ouroboros, qui est l'union entre l'individu et le cosmos, et c'est pour ça que, en théorie, il a tout le potentiel pour être aimé. Bon, j'avoue que sur la dernière partie, on est allé super loin. Mais j'espère que ce petit épisode hors série vous aura quand même plu. On a l'impression d'avoir tout expliqué. Mais malgré tout ça, il y a encore plein de questions non révélées, du genre, finalement, à quoi sert cette boîte noire et quel est son sens ? Puis aussi, pourquoi il se réveille maintenant ? Alors je pense qu'on aura le fin mot de la dernière question qu'à la publication du synopsis et des prochaines versions qui sortent l'année prochaine, en 2019. Mais en tout cas, ce qui ressort, c'est que Meltan symboliserait donc en quelque sorte le cycle et la continuité perpétuelle. Et du coup, c'est très intéressant qu'il ait été révélé quelques temps avant un jeu qui proposait un retour au point de départ, en fait, non ? Et puis c'est encore plus curieux quand on connaît les dernières déclarations de Junichi Matsuda, le réalisateur des derniers jeux Pokémon et le compositeur depuis le début, qui a annoncé que ça serait le dernier opus sur lequel il travaillerait, et qu'il espérait que les jeux Let's Go lanceraient un nouveau cycle. Bon, ne vous inquiétez pas, nous n'irons pas plus loin dans les spéculations foireuses. En tout cas, j'espère que ce mini-épisode vous aura plu et vous aura au moins permis d'être intrigué par ce petit chewing-gum en fibre argent. J'avais d'autres théories à son sujet, comme le golem dans les récits chrétiens ou des choses qui vont plus loin avec le tantale, mais je trouve que ma version est peut-être la plus crédible. En tout cas, j'espère qu'on aura le fin mot de l'histoire très vite. Et si vous êtes tout de même intrigué par cette créature, je vous mettrai en description du podcast sur Radiokawa les deux vidéos d'un vidéaste américain qui est parti sur un tout autre délire sur Meltan. Personnellement, je suis pas fan de ce qu'il dit, mais je vous laisse tout de même voir tout ça. Mais dans tous les cas, je pense que l'alchimie pourrait être au cœur de la 8ème génération, tout comme elle a été pour la 7ème. Car oui, la 7ème génération se basait énormément sur ce domaine. Comment vous le découvrez ? Eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode classique, où je vous parlerai d'un Pokémon qui fait, avec d'autres, le lien entre Pokémon et alchimie. À la semaine prochaine, ciao ! Mais attends, il est dit que Melmetal a été créé il y a plus de 3000 ans. Pourtant, il possède un câble électrique comme queue. Et les câbles électriques ont à peine 150 ans. Est-ce que ça veut dire que l'ancien temps d'il y a 3000 ans dans Pokémon correspond à... Oh mon dieu ! Vous rêvez de créer votre propre jeu vidéo, de rejoindre un studio, ou bien vous avez juste envie de découvrir ce qui se passe de l'autre côté de l'écran ? Adrien, Jade, Antoine, Gugli et leurs invités vous dévoilent les arcanes du développement de jeux vidéo, une fois par mois dans The Game Maker, sur Radio Kawa.